Donc je vais essayer de tenir le temps. Donc, je ne sais pas si on vous a communiqué un titre pour mon intervention. Je vais parler d'une réforme de l'enseignement de la géographie un petit peu ancienne, puisqu'elle date des années 1860. Ce sera un point de départ dont je vais parler pendant une bonne partie de cette intervention. Et puis je vais... Alors là, ça sera un peu moins étayé, pourrais-je dire. Je vais essayer de consacrer 10 minutes, un quart d'heure ensuite pour voir peut-être si on peut transposer des éléments liés à cette réforme de l'enseignement de la géographie des années 1860, s'il y a des leçons, entre guillemets, à en tirer, si on peut faire des comparaisons avec la période actuelle. Bon, là, je le répète, ce sera plus sous forme d'interrogation de ma part, même si je peux m'appuyer sur des travaux, bon, sur mes travaux de thèse, en fait, mais ce sont des travaux qui, maintenant, ont une bonne dizaine d'années et qui pour partie concernent des périodes de la géographie scolaire qui sont encore plus anciennes, qui ont encore au moins une dizaine d'années de plus. Donc finalement ma connaissance du changement contemporain, elle est plus très contemporaine, puisque ce sur quoi j'ai pu réfléchir, ce sont des réformes qui ont une vingtaine d'années maintenant, enfin des réformes ou des difficultés de réforme qui ont une vingtaine d'années maintenant. Sur la période ancienne, ça correspond à des travaux que je mène actuellement sur l'histoire de la géographie au XIXe siècle et l'histoire de la géographie scolaire notamment. Je vais pouvoir peut-être vous dire des choses un peu plus précises. Donc le premier temps de cette intervention concerne cette réforme que je vais essayer de vous présenter, qui se met en place à partir de 1863. Je remonterai quand même un peu plus loin dans le temps, dans la mesure où il y a des choses qui se trament auparavant, mais c'est une réforme qui se met en place aux alentours de 1863. Avec des programmes de géographie qui sont publiés en 1866, qui ont laissé finalement assez peu de traces dans l'histoire de la géographie, et je crois que ça c'est un point intéressant sur lequel je reviendrai. Par contre, ce qui a laissé beaucoup de traces dans l'histoire de la géographie scolaire, c'est la réforme de 1872-74, dont on a fait d'ailleurs assez souvent et à tort l'acte de naissance de la géographie dans l'enseignement secondaire. Je vais d'abord vous dire quelques mots de la géographie scolaire dans la première moitié du XIXe siècle. À quoi est-ce qu'elle ressemblait, cette géographie? Alors, d'une certaine manière, elle ressemblait beaucoup à ce qui se faisait avant, mais de manière beaucoup plus difficile à traquer pour un chercheur, parce qu'on n'avait pas de textes officiels. Les premiers textes officiels apparaissent au tout début du XIXe siècle pour l'enseignement secondaire. Et là, je remercie Bernard Marchand qui a fait un travail... c'est Bernard, je ne dis pas de bêtises. Non, je dois dire une bêtise. Marchand. Philippe Marchand, qui a fait un travail considérable de collecte des textes officiels de l'enseignement secondaire. C'est un recueil qui a été publié par l'INRP il y a maintenant une petite dizaine d'années. C'est vraiment un outil extrêmement utile, et vous pourriez y retrouver la plupart des citations, une partie des citations que je vous proposerai dans cette partie. Donc la géographie du début du XIXe siècle, elle reprend un certain nombre de traits de la géographie pré-révolutionnaire, et notamment de la géographie qui était celle de l'enseignement dispensé par les jésuites. Pour dire les choses assez rapidement, on avait une géographie qui était associée soit aux mathématiques et à la physique. On parlait d'ailleurs de géographie mathématique assez fréquemment. ou une géographie qui était associée à l'histoire pour servir aux commentaires des textes latins ou grecs. Je cite quelques mots. Alors ça, c'est l'héritage pré-révolutionnaire, mais c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la première, au moins dans la première moitié du XIXe siècle, avec un décalage assez net sur la géographie au service de l'histoire. En réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est, dans un premier temps, c'est la géographie au service de l'histoire qui est elle-même au service de l'enseignement des humanités. C'est-à-dire qu'il y a comme une forme de hiérarchie dans la noblesse, entre guillemets, des disciplines, les humanités, l'histoire, et puis tout en bas, pour prendre cet axe-là seulement, hein, et tout en bas, la géographie et la chronologie. Je cite le règlement sur l'enseignement des lycées de 1809. Les professeurs d'humanité feront connaître à leurs élèves les meilleurs auteurs français et dirigeront leur lecture de manière à leur donner les notions principales de l'histoire. Il y aura pour cet effet dans les classes des cartes géographiques et des tables chronologiques. Donc, géographie et chronologie sont placées à peu près au même niveau comme outils de repérage. Repérage dans le temps avec la chronologie, qui est distinguée de l'histoire, et repérage dans l'espace avec la géographie. Je vais vous lire maintenant un texte un tout petit peu plus long, qui est une lettre circulaire qui est adressée aux professeurs d'histoire des écoles centrales. Les écoles centrales, ce sont, on pourrait dire que c'est l'ancêtre de l'enseignement spécial, l'ancêtre de l'enseignement moderne, hein, d'une certaine manière. C'est dans ces écoles-là que cet enseignement va prendre racine. C'est-à-dire des écoles qui vont être destinées à former des élèves avec un lien plus direct vers des professions. Hein. Ce ne sont pas des écoles professionnelles, mais il y a la volonté déjà à ce moment-là de créer une alternative à l'enseignement des humanités. Donc, dans les écoles centrales, on a un enseignement d'histoire. Curieusement, d'ailleurs, on n'a pas d'enseignement de géographie, mais on a quelques précisions qui sont fournies par le ministre de l'Intérieur qui précise quel est le statut de la géographie dans ses cours et dans le cours d'histoire notamment. Les notions géographiques sont presque uniquement du ressort de la mémoire. Celle de la géographie physique et de la mesure du temps qui en dérive, c'est-à-dire une connaissance superficielle du système planétaire et de la structure de la Terre, sont les préliminaires nécessaires du cours d'histoire naturelle. Un aperçu de la géographie politique n'est pas moins indispensable au commencement de toute étude, sous peine de ne jamais savoir placer ni les hommes ni les choses dont on entendra parler dans la suite des différents cours. Il est donc clair que la loi qui n'a pas parlé de géographie n'a pas entendu la comprendre dans le cours d'histoire proprement dit, mais a supposé que la géographie physique était comprise dans le cours d'histoire naturelle et que la géographie politique sera enseignée par le professeur de langues anciennes, en même temps que les premiers éléments du latin. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que on revient sur cette idée d'un savoir préliminaire, hein, d'un outillage pour d'autres enseignements, donc avec des éléments de repérage. La deuxième idée qui apparaît dans ce texte-là et qui nous renseigne un petit peu sur ce que pouvait être la géographie dans ce début du XIXe siècle, c'est que cette géographie relève essentiellement de la mémoire. Il s'agit de mémoriser, c'est la première phrase du texte. Les notions géographiques sont presque uniquement du ressort de la mémoire. Et d'ailleurs, on dit aussi à d'autres moments, il faut donc l'apprendre très tôt, et l'apprendre en particulier aux jeunes enfants dont le cerveau est plus malléable, et on va pouvoir graver, le terme graver va revenir assez souvent, on va pouvoir graver les savoirs géographiques dans l'esprit des jeunes enfants. Il y a aussi l'idée implicite derrière cela, et on va retrouver cette notion de discipline outil, qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre en géographie. Et donc, ça va encore justifier une fois de plus le fait qu'on le fasse avec les élèves les plus jeunes. Et la troisième idée qui apparaît, c'est que la géographie ne semble pas être constituée comme un corps de savoir. On voit bien qu'on a une géographie éclatée. qui va relever de l'histoire naturelle, qui va relever des langues anciennes, qui va relever des mathématiques et de la physique, qui va relever de l'histoire. Et cette géographie éclatée, elle renvoie aussi au fait qu'il n'existe pas de science de référence à ce moment-là. Finalement, là, ça serait une différence majeure avec des périodes plus récentes ou des réformes plus récentes. À quoi peut se raccrocher une réforme de l'enseignement de la géographie en termes de contenu, dans la mesure où il n'y a pas de savoir de référence? On est à l'époque des géographies plurielles. Géographie plurielle, c'est le titre d'un ouvrage coordonné par Hélène Blay et Isabelle Laboulet, qui a été publié en 2006 et qui montre que le mot géographie au XIXe siècle, finalement, va désigner toute une série de domaines de la connaissance, toute une série d'activités, et va renvoyer à toute une série d'institutions. Donc ça, c'est en gros une présentation assez schématique de ce que pouvait être la géographie scolaire, de l'enseignement secondaire en particulier, mais notons au passage que l'enseignement secondaire touche assez peu d'élèves, hein, dans cette période-là, mais ça, voilà une présentation un peu schématique de ce que ça pouvait être dans la première moitié du XIXe siècle. Parallèlement à cela, il y a une autre vision de la géographie qui émerge, qui met du temps à émerger et qui, de mon point de vue, sert de substrat au changement que je voudrais présenter. Je vais commencer par citer un géographe important de la période révolutionnaire. Alors, enfin, c'est compliqué parce qu'il est à la fois sur la période pré-révolutionnaire, il a été géographe du roi, période révolutionnaire, c'est Edme Mantel. Edme Mantel, c'est un géographe qui pense que enseigner la géographie, ça a une utilité en soi. Et c'est sur ce... sur ce substrat, sur cette idée-là, que la réforme des années 1860 va se construire. Edme Mantel écrit par exemple en 1796 « Tout le monde sent plus ou moins le besoin qu'il y a de la géographie, au lieu que tous les ouvriers et les négociants même croient que l'étude de l'histoire est un temps précieux enlevé aux occupations lucratives du commerce. » Alors cette idée de... qui est une forme de renversement, hein, des choses, hein, c'est que l'histoire finalement... C'est un luxe pour ceux qui ont un peu de temps pour se consacrer à cela. Il vaut mieux se préoccuper de géographie. Cette idée-là, on va la retrouver sous la plume d'un historien, qui est Victor Duruy, dans les années 1860, lorsqu'il va mettre en place cette fameuse réforme. Mantel va reprendre cette idée à plusieurs reprises, hein, d'une géographie qui devrait être enseignée différemment parce qu'elle est utile en soi. Il va reprendre cette idée dans les cours qu'il a dispensés à l'école normale de l'an 3. Pardon, il ne va pas la reprendre puisque c'était avant d'ailleurs, mais il la présente dans ses cours en 1795. Il y a une phrase qui me paraît assez importante. La terre, parce qu'on va la retrouver sous une autre forme un peu plus tard, « La terre est la demeure de l'homme. Les biens qu'il en obtient forment sa propriété naturelle. » Il était de son devoir et de son intérêt de chercher à connaître dans ses détails l'étendue et les avantages d'un si beau domaine. Donc, une géographie comme connaissance utile à la connaissance et à la mise en valeur de ce domaine, de cette demeure de l'homme, hein, ensuite on dira domaine de l'homme, de cette demeure de l'homme qu'est la Terre. Alors, ces propositions de Mantel ne débouchent sur rien. Je ferai deux hypothèses, mais je les mentionne simplement. La première, c'est que on est au début du XIXe siècle et on n'est pas encore dans la période où la géographie, sous toutes ses formes, va acquérir une popularité relativement importante en France. On est loin de la période des premières expositions universelle, des premières grandes expositions. La Société de géographie de Paris n'est pas encore créée, elle le sera en 1821. On est loin de cet engouement géographique que Jean-Marc Besse, par exemple, a étudié lorsqu'il s'intéresse aux grands globes, hein, qui ont pu être fabriqués, ou aux projets de grands globes comme celui d'Élisée Reclus. Bon, celui d'Élysée Reclus n'a jamais été fait, mais il y a eu d'autres grands globes qui ont été fabriqués et qui étaient des lieux d'attraction. Hein. Il y avait une espèce de grande curiosité pour la connaissance du monde. On est encore loin de cette période. On est loin de l'Empire libéral. Bref, on est loin de la colonisation aussi. On est loin de cette attractivité qu'aura la géographie plus tard. Donc je pense qu'il y a un effet de contexte. Et puis, peut-être un deuxième problème, c'est qu'en l'absence de références scientifiques pour la géographie, universitaire en tout cas, on n'a peut-être pas de représentation ou trop de représentation de ce que pourrait être la géographie. Il n'y a pas de modèle qui permettrait d'orienter une réforme. Pourtant, cette idée de Mantel, elle va être reprise. Je passe assez vite sur certaines de ces reprises. Je vais m'arrêter à celle de Eugène Cortambert, 1854. Eugène Cortambert, c'est un géographe, enfin autoproclamé, puisqu'on pouvait être que géographe autoproclamé à cette époque-là. Eugène Cortambert, quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres de géographie, de manuels, et il écrit en 1854 « La géographie a son rôle propre, ses fonctions indépendantes. Elle met tout à sa vraie place, elle donne des idées justes sur les rapports des peuples et nous enseigne les points d'où nous pouvons tirer les objets de nos besoins, ceux vers lesquels nous devons diriger les produits de nos arts. Elle devient la règle de nos relations sociales qui lie les peuples entre eux. » Et déjà, à travers cela, on a une forme de programme pour une géographie qui permette d'agir dans le monde. Et puis, je citerai encore alors quelqu'un de très peu connu qui s'appelle Jules Duval. Je ne vais pas trop développer, mais Jules Duval, c'est quelqu'un qui a joué un rôle majeur à la Société de géographie de Paris au milieu des années 1860 et qui est un peu l'inspirateur de la réforme ou des réformes successives des années 1860. 66, 72, 74. Jules Duval écrit en 1863 « La supériorité coloniale et commerciale de l'Angleterre est intimement liée à la diffusion générale des notions géographiques. À la dernière exposition de Londres, on admirait le nombre, la variété et la modicité des prix des livres et des atlas à l'usage des écoles primaires. » Initié dès l'enfance à la connaissance du globe, de ses régions et de ses produits, tout Anglais est préparé de bonne heure au rôle de marin, de colon, de voyageur, d'explorateur. Intelligente éducation que toutes les nations, et la France particulièrement, devraient donner à leurs enfants. Donc à nouveau, un signe, une demande finalement de géographie dans une époque où on n'est pas encore dans la course aux colonies, mais on est au début de l'Empire, de la période libérale de l'Empire, et on est dans une période où la demande de géographie, le besoin de géographie se renforce et se fait sentir plus nettement. Et aussi bien Mantel que Cortambert ou Duval incitent finalement à un renversement de perspective en faisant de la géographie un enseignement qui aurait ses propres finalités et qui donnerait aux élèves une forme d'intelligence du monde. Et donc c'est sur ces bases-là qu'une réforme va se mettre en place à partir de 1963 dans un contexte que j'ai très rapidement énoncé, qui est celui de la période libérale du Second Empire, les années 1860. Libéralisme, à ce moment-là, ça veut dire progrès, confiance en l'avenir, désir de mettre en valeur la terre, une certaine vision de la connaissance et de l'utilité de la connaissance. Ça, c'est un premier élément de contexte, tout cela avec un héritage saint-simonien. Mais je passe rapidement. Et puis, il y a un deuxième élément de contexte qui va jouer un rôle important, c'est la contestation des humanités classiques qui se renforce encore. Cette contestation, je le disais précédemment, elle est ouverte avec les écoles centrales au tout début du XIXe siècle. Je cite Nicole Hulin dans un ouvrage de 1989. L'empreinte laissée par les écoles centrales est profonde. Tout au long du XIXe siècle se pose le problème qui a vu le jour lors de leur suppression, l'intégration des disciplines modernes dans l'enseignement secondaire. Et c'est un peu dans cet esprit-là que Victor Duruy, historien, qui devient ministre de l'instruction publique en 1863, va mettre en place un projet d'enseignement dit « enseignement spécial ». Alors, l'idée de l'enseignement spécial, on pourrait peut-être la résumer par une anecdote que Duruy raconte dans ses mémoires qui ont été publiées en 1901. Duruy, avant d'être ministre, Duruy était professeur d'histoire-géographie au lycée Napoléon. Il était ensuite inspecteur général, et dans ses visites d'inspection, alors, est-ce que l'anecdote est vraie ou pas, peu importe, mais dans ses visites d'inspection, il raconte qu'un jour, il voit un gamin, qui est un élève de quatrième, hein, qui était en train d'essayer de traduire du latin et du grec, et apparemment, c'était pas du tout simple. Et il dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, quels sont tes projets, et l'enfant lui dit, je veux être cultivateur comme mon père. Par parenthèse, ça devait déjà être une famille de cultivateurs plutôt aisée pour que l'enfant soit en quatrième. Mais qu'importe. Je veux être cultivateur comme mon père. Et Duruy se dit, mais ça va pas. C'est ce qu'il raconte ensuite. Hein. Ça va pas. Il y a un décalage entre ce que cet élève apprend et ce dont il a besoin. Et l'idée de l'enseignement spécial va naître là-dessus. Je le cite maintenant. Ce que je vis dans les autres lycées et collèges durant mes deux années d'inspection générale me confirma dans la pensée que s'il était excellent de faire par les études classiques des lettrés, des avocats et des médecins, il ne l'était pas moins de donner aux futurs employés du commerce, de l'industrie et de l'agriculture les connaissances spéciales que leur profession réclamait. Donc il va inventer un cursus parallèle, donc l'enseignement spécial, avec une durée d'études qui est un petit peu plus courte, et surtout, soit des disciplines qui existent déjà et qui vont être adaptées, soit des disciplines qui sont plus ou moins sur la marge, comme la géographie, dont l'enseignement était régulièrement suspendu, des disciplines donc, comme la géographie, pour lesquelles il va demander à Émile Levasseur de rédiger un programme. Émile Levasseur, c'est un savant, historien, géographe, démographe, très libéral, très intéressé par la géographie, très intéressé par l'éducation, et qui a une conviction qu'il résume. Et à mon avis, là aussi, c'est important pour comprendre la philosophie de cette réforme, qu'il résume dans un texte de 1872 qui s'appelle « L'étude et l'enseignement de la géographie ». Il écrit, et ça se rapproche un peu de ce que disait Mantel, « La terre est le domaine de l'homme. Il faut que l'homme connaisse son domaine pour en jouir et le mettre en valeur. La géographie a pour objet de le lui apprendre. » C'est simple et précis. Hein. La terre comme domaine. Le projet de l'humanité, c'est la mise en valeur de ce domaine. La condition à cela, c'est la connaissance. Et le moyen de remplir cette condition, c'est une géographie renouvelée, différente de celle qui existe, et un enseignement de la géographie qui soit donc adapté à ses besoins. Et donc Levasseur, dans cette perspective de mise en valeur du monde, hein, la colonisation dans la deuxième partie de l'Empire, on a une première vague de colonisation. En tout cas, il y a des projets de colonisation, là aussi, qui peuvent être très fortement inspirés des Saint-Simoniens. Et pour cette transformation du monde qui est portée par les libéraux, Levasseur a la conviction que la géographie a un rôle majeur à jouer. Et il va rédiger des programmes pour l'enseignement spécial. Je ne vais pas détailler, mais le cœur de ces programmes, ce sont les activités humaines, l'exploitation des mines, la culture, l'élevage, l'industrie, les activités de transport, le commerce. Hein. Une géographie qui change un petit peu de perspective. Alors, pas complètement en termes de pratique, hein, il s'agira toujours de mémoriser beaucoup d'informations, mais en termes de contenu, en termes d'objets, on laisse de côté, la géographie historique va presque disparaître avec Levasseur. Et on va, alors on n'utilise pas encore l'expression géographie économique, mais géographie commerciale. La géographie commerciale, la géographie des activités humaines va prendre de l'importance. Alors ce qui m'intéresse par rapport à cela, c'est que cette réforme, et est-ce que c'est une constante, est-ce qu'on retrouve cela aujourd'hui dans la notion de changement dans l'éducation et dans les programmes scolaires en particulier, cette réforme, elle se fait par les marges. Elle se fait par un enseignement qui n'est pas au cœur du système éducatif. Elle ne se fait pas dans l'enseignement secondaire classique. Je crois que ça n'est pas une stratégie, hein, c'est juste... c'est comme ça que les choses se font, quoi. Et puis là-dessus, comment est-ce que ce changement dans l'enseignement de la géographie va se généraliser ? Eh bien, par une conjoncture favorable qui est la guerre contre la Prusse, la défaite, dont, je le répète, on a souvent fait l'acte de naissance de la géographie scolaire, alors que je viens d'essayer de vous montrer qu'il se passe des choses bien avant, et qu'en tout cas, la réforme de 72, elle n'est pas née de la défaite, mais elle est en continuité avec ce qui se passe auparavant, puisque l'initiateur de cette réforme, c'est le même Émile Levasseur, donc la réforme de 72. Donc la conjoncture favorable, c'est la défaite. Je pourrais dire l'opiniâtreté d'un ministre, Jules Simon, ministre de l'instruction publique à partir de septembre 1870, qui pense que dès le moment où la défaite est actée, qui pense que il y a une responsabilité du système éducatif dans cette défaite. Bon, ce sont des choses qui sont bien connues. Et en tout cas, Simon fait partie de ceux qui pensent que parmi les disciplines qui seraient entre guillemets responsables, sans doute excessif comme terme, il y a la géographie. Et il va demander à deux géographes, deux savants, de produire un rapport. Et nouvel élément qu'on peut peut-être articuler avec des choses plus contemporaines, la production de rapports comme moteur, comme levier d'un éventuel changement. Et donc il va commander un rapport, il va le confier à Émile Levasseur, dont j'ai déjà parlé, et au seul titulaire d'une chaire de géographie à ce moment-là, qui s'appelle Louis-Auguste Imlie, qui est titulaire de la chaire de géographie à l'Université de Paris. Bon, en réalité, c'est une chaire de géographie historique, mais c'est le seul géographe universitaire de l'époque, hein, une forme de caution scientifique avec Imlie. Et donc Levasseur et Imlie vont faire ce rapport. Ça se passe au milieu de l'année 1871, et c'est un rapport, je passe sur les détails, hein, on en trouve de larges extraits dans le bouquin de Philippe Marchand, c'est un rapport qui est extrêmement critique sur l'enseignement de la géographie dans le système secondaire classique. Je passe sur les critiques relatives à ce rapport, mais c'est assez violent parfois. Donc on a un état des lieux là qui est fait et qui peut être le moteur d'une réforme. Et je parlais de l'opiniâtreté de Simon. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment quelqu'un qui va suivre sa conviction jusqu'au bout. Hein. Il commande un rapport, le rapport est fait, il est rendu public. Immédiatement, il va créer une commission pour réfléchir à une réforme des programmes. Il va y avoir des programmes expérimentaux qui vont être mis en place en 1872 et les programmes vont être définitivement installés avec quelques modifications de détails en 1874. Donc ça veut dire que sur 4 années quasiment, il va suivre cette réforme, hein, jusqu'à ce qu'elle soit mise en place. Alors, est-ce que les programmes de l'enseignement secondaire de 72-74 sont vraiment nouveaux? Oui et non, finalement. Peut-être c'est de l'idée de la difficulté à réformer. Oui et non, parce que... Alors, dans certaines classes, 6e, 5e, 4e, 3e, ils sont vraiment nouveaux. Par contre, dans les classes de lycée, beaucoup moins. On reprend beaucoup plus volontiers le cadre ancien dans les classes de lycée. Enfin, l'hypothèse que l'on pourrait peut-être faire, c'est pour les classes de lycée, la proximité du baccalauréat. Je ne sais pas jusqu'où on peut tenir cette hypothèse-là, mais en tout cas, par rapport à la période contemporaine, là aussi, ça peut être intéressant. Je ne sais pas trop s'il y a eu des résistances à la mise en place de ce programme, parce que finalement, on travaille toujours sur les textes officiels, hein, on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Il y a forcément des résistances dans le genre « c'était mieux avant ». Ça c'est assez connu. La seule trace que j'en ai trouvée, ce sont les mémoires de Raoul Blanchard, qui écrit quelque part que Raoul Blanchard, il arrive plutôt sur la fin de cette période-là. Il est élève dans les années 1880, me semble-t-il. Et Blanchard dit la géographie, ce qui est quand même le mieux, c'est quand même apprendre par cœur tous les départements. Et il se dit, avant j'avais un maître de l'école primaire, Monsieur Garnier, avec lequel tous les matins on apprenait quelques départements nouveaux avec leur chef-lieu, puis quand on avait fini on recommençait. Et apparemment Blanchard était très fort dans cet exercice-là, et il dit après ça devient plus compliqué. Il est très critique vis-à-vis notamment de quelqu'un comme Galwedek, hein, qui va jouer un rôle important lui aussi dans l'écriture des ouvrages scolaires. Alors je vais tirer juste quelques idées et puis après prendre 5 minutes pour peut-être parler un tout petit peu de ce que je comprends de la période contemporaine. Les quelques idées que je pourrais tirer de tout cela, c'est que les limites de cette réforme, on les trouve du côté des pratiques. Il semble que les pratiques ne changent guère, hein, entre avant et après. Alors, on peut lire ça à travers les textes officiels, un petit peu en creux, lorsqu'on dit qu'il faut il faut faire réfléchir les élèves, que la géographie ne peut pas être une nomenclature, qu'apprendre par cœur, c'est peut-être pas très bien. Donc on a implicitement, hein, des choses qui apparaissent par ce biais-là. C'est un petit peu la même chose, si vous voulez, lorsqu'on dit dans tous les textes officiels qu'un prof doit consacrer autant de temps à enseigner la géographie que l'histoire. Hein, c'est une excellente démonstration de ce qui se fait, ou pas. Limite du côté des pratiques. Peut-être une difficulté pour, sur le terrain en tout cas, à intégrer dans ces pratiques la question de l'utilité sociale de la géographie. Encore quelques remarques sur cette réforme. Ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un projet ancien, hein. Ça n'apparaît pas brutalement en 1966. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, quand on remonte, quand on analyse des textes plus anciens, on retrouve déjà cette idée-là de changer l'enseignement de la géographie. Le changement par les marges, j'en ai parlé. Le poids des contextes successifs, hein, je crois qu'il y a des contextes qui sont favorables et d'autres qui le sont moins. L'importance de quelques acteurs. Il me semble que Jules Simon joue un rôle important. Émile Levasseur, tout autant. Ce sont des hommes qui vont défendre une conviction, hein, et qui vont avoir les moyens, à un moment ou un autre, de mettre cela en place. Je vais m'arrêter sur ce point. Je peux prendre encore 5 minutes.
Oui.
Voilà, parfait. Réfléchir à haute voix sur la situation. Sur la situation contemporaine. Alors là, c'est je le répète, hein, il y a assez peu de, c'est assez peu étayé ce que je vais dire là. Autour de la réflexion dans l'enseignement de la géographie aujourd'hui, quels pourraient être les paramètres qui jouent un rôle important relativement à cette réflexion? Il y a un paramètre, me semble-t-il, bon, que vous connaissez bien et qui doit jouer un rôle, c'est le fait que la géographie soit enseignée par des historiens. Deuxième paramètre qui me paraît important, c'est la question de la difficulté que peuvent avoir ces enseignants historiens et même les enseignants géographes à se saisir de la science de référence, c'est-à-dire de la géographie comme science. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, ce qui se passe dans le monde de la géographie aujourd'hui, et plutôt sain finalement qu'une science soit dans le mouvement, mais peut-être qu'on peut trouver que ça part un peu dans tous les sens, quoi. Le troisième élément, alors là, qui me paraît jouer dans, enfin, pouvoir jouer de manière contradictoire, c'est le poids d'une association de la corporation, qui est l'association des professeurs d'histoire-géographie. J'ai dit beaucoup de mal pendant de nombreuses années de cette association, et puis je me suis dit, avant de dire de nouveau du mal, je vais quand même regarder un petit peu, et j'ai pris les derniers bulletins là, parus depuis 2 ans, et j'ai voulu regarder quelle était la géographie présentée par le bulletin de la PAG. C'est quand même très classique. Aujourd'hui encore, les jeunes géographes qui font bouger la discipline, on ne les voit pas trop. Il y a des sujets, bon, l'analyse spatiale par exemple, alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué, mais ça fait partie des sujets qui ne sont strictement jamais abordés dans les dossiers de géographie de l'Association des profs d'histoire géo. Je crois qu'il y a aussi... Et je vais essayer de l'illustrer en terminant, le poids des examens, le bac en particulier. Et puis je me suis posé la question des manuels. Alors là, je n'ai pas vraiment retravaillé, je vous le propose, on pourra en discuter, hein. Pour moi c'est une question. Est-ce que les manuels sont des lieux qui favorisent le changement ou au contraire qui le freinent? Ou les deux à la fois, ou ça dépend. Enfin bon, voilà, c'est une question un petit peu ouverte. Je vais terminer sur les programmes tels qu'ils sont aujourd'hui. Alors, je me demande s'il n'y a pas dans le programme de géographie actuel un changement de paradigme qui serait en train de se mettre en place. Alors, je vais peut-être loin, peut-être trop loin, mais... Si on regarde les programmes, historiquement, ce sont des programmes qui reposent sur une logique idiographique avec de l'étude d'espaces identifiés. On étudie la France, on étudie les États-Unis, on étudie le monde. Et étudier le monde, c'est de la géographie du monde, c'est pas de la géographie conceptuelle, hein. Parce qu'il y a parfois des confusions. Donc on étudie la France, les États-Unis, le monde, l'Inde, l'Afrique, etc. Ça, c'est le fonctionnement habituel. Et si on regarde les programmes qui se mettent en place avec les réformes successives, et je pense en particulier au nouveau programme de collège, en 6e, en 5e, en 4e et en seconde, maintenant, hein, je laisse de côté la 3e, on a 4 niveaux dans lesquels on a une autre approche. On pourrait parler de logique conceptuelle, où on va étudier des problèmes géographiques. On va donc travailler sur un certain nombre de concepts, et il me semble que ça change, ça peut changer considérablement la donne. C'est-à-dire que la manière d'évaluer, par exemple, elle peut être très, très différente. Sauf que ça ne change pas en 3e, en 1ère et en terminale, qui sont les 3 classes d'examen. Parce que dès le moment où on met en place un examen qui n'est pas l'évaluation que fait le prof dans sa classe à ses propres élèves, il faut être d'accord sur un certain nombre d'objets d'évaluation communs. Donc soit on évalue des morceaux d'espace, soit on évalue des concepts. Et manifestement, on ne sait pas bien faire avec les concepts. Je terminerai là-dessus, mais si je dis à des profs en formation, une bonne évaluation, c'est une évaluation qui porte sur des choses qu'on n'a pas enseignées en cours, il va y avoir assez immédiatement une crispation, une réaction un peu vive, ou au moins un étonnement. Mais si on travaille sur des concepts géographiques, c'est bien une évaluation, elle doit porter sur les concepts, mais sur des objets, sur des espaces qu'on n'a pas étudiés en cours. Elle peut porter, en tout cas. C'est le meilleur moyen de voir qu'un élève est capable de réutiliser ses concepts dans une situation différente et de sortir d'une situation de répétition. Et ce n'est pas un hasard, à mon avis, si troisième, première et terminale, maintenant la première avec l'histoire géo à l'examen en première, en S, donc troisième, première, terminale, ce n'est pas un hasard, ce sont ces trois classes-là pour lesquelles le changement ne se fait pas. Je m'arrête.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, je redonne juste le titre de la communication qui vient un peu rapidement tout à l'heure, je ne l'ai pas donné. Il s'agissait de réformer l'enseignement géographique pour transformer le monde, les propositions des années 1860.
Et donc, ça me rassure.
Et Pascal est donc maître de conférence à l'Université de Lyon et chercheur à l'UMR Géographicité, équipe EGO. Voilà, alors je te remercie pour cette intervention qui souligne en fait toute l'actualité des réflexions qu'on peut avoir sur la géographie scolaire enseignante. Je relèverai quelques points qui seront soumis tout à l'heure au débat. Tout d'abord, la question de la place de la géographie par rapport aux autres disciplines et notamment aux autres disciplines enseignées. Tu as parlé tout à l'heure d'une évolution du paradigme de la géographie scolaire. Aujourd'hui, certains chercheurs commencent à parler d'une éventuelle dissolution de la géographie enseignée au sein d'une discipline scolaire qui serait plus largement des sciences humaines, ouvertes au droit, à l'économie, à l'histoire bien sûr, mais qui dépasserait largement la géographie et qui serait très ancrée dans l'actualité. La question de la réforme par les marges aussi pose la question, puisque de nombreuses recherches tendent à montrer que malheureusement on reproduit un modèle bien connu qui est celui des 4 R et qu'on a du mal à s'en sortir, à s'en extraire. Donc la question de comment réformer, savoir si les marges peuvent à nouveau être des points d'ouverture pour l'innovation, c'est une question tout à fait d'actualité. La question du contexte aussi joue énormément. Tu as montré que le contexte était favorable au moment de la réforme dans les années 70. Qu'en est-il aujourd'hui? Peut-on réformer la géographie? Est-on dans un contexte favorable? Et là, je pense que c'est soumis au débat. Tu as posé également la question des pratiques et de la grande permanence des pratiques malgré des réformes annoncées et soutenues dans un contexte favorable. Nous vivons une période de grands changements. Au collège, comme tu l'as montré aujourd'hui, c'est essentiellement les programmes de collège qui ont été réformés, comme visiblement c'était le cas déjà à la fin du 19e siècle, puisque les derniers programmes de collège et de lycée, les programmes de lycée restent quand même relativement stables, alors que les programmes de collège connaissent des modifications profondes. Donc ça pose la question de quid des pratiques et sommes-nous ou pas dans un changement de paradigme de la géographie scolaire? Je pense que tu as soulevé de nombreuses questions, j'espère qu'on pourra en discuter, parce qu'effectivement, enseigne-t-on encore comme dans les années 60, 1960. Voilà. Donc,